Ouais, vous êtes en forme. Est-ce qu'on peut remercier, applaudir l'équipe de louanges ici? C'était super, merci à toute l'équipe. C'est une grande joie pour moi d'être ici, de pouvoir vous retrouver, ça fait un moment. Ça va? Alors je souhaite la bonne année, une merveilleuse année 2020, vraiment que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Je souhaite vraiment le meilleur au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Ok, je ne vous entends pas bien là, je ne sais pas si c'est, c'est le dimanche matin. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole à l'église? Excellent. Alors je crois que vous êtes dans une série sur les dons spirituels, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai ou pas? Ok, vous confirmez. Et aujourd'hui on m'a demandé de prêcher donc sur les dons relevant de la parole. Alors juste avant d'aller plus loin, je voudrais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je m'appelle Laurent Rupi, je suis pasteur à Paris, une église qui s'appelle Impulsion. Je suis venu, ce qui est rare, avec mon épouse Claire qui est voilà, vers le fond, et avec nos deux enfants, Augustin et Lou, ils sont par terre en train de faire des puzzles, ok? Tout va bien. Et j'ai eu l'occasion d'être ici à One Heart pendant 2 ans, c'est ça. Et c'était des moments fabuleux, vraiment des moments de joie avec cette formidable communauté. Et donc, de temps en temps, je repasse et ils ne sont pas totalement lassés de moi, alors je suis rassuré. Et aujourd'hui, on m'a demandé donc de partager sur les dons spirituels. Alors, on va lire un passage ensemble, un verset, puis on ira creuser dans les Écritures et notamment dans 1 Corinthiens, puisque c'est le livre particulièrement qui traite des dons spirituels. On lit ensemble dans 1 Corinthiens chapitre 12, et on va lire verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, juste le verset 1. Et voici ce que déclarent les Écritures. Voilà. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le Seigneur ne veut pas qu'on soit dans l'ignorance par rapport aux dons spirituels. Et aujourd'hui, mon but, c'est qu'on puisse découvrir davantage la réalité des dons spirituels. On va prier avant d'aller plus loin. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. On veut t'accueillir et te demander de nous révéler la parole, les Écritures. Tu as inspiré les Écritures et on prie maintenant pour que l'Esprit de révélation descende dans cette église maintenant, dans le nom de Jésus. Et ensemble, on dit Amen. Alors, il y a quelques années de cela, avec ma femme, on avait une voiture, juste une voiture toute simple qui roulait, une voiture sans option, d'accord? C'est notre Toyota Yaris, on l'aimait bien, on l'a vendue entre-temps. On l'aimait bien, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette voiture comportait quelques difficultés. Notamment, elle n'avait pas la climatisation. Alors, c'est une voiture qui roulait bien, mais sans clim, par moments, c'était difficile. Et je me souviens d'un épisode où on était dans le sud de la France et on allait en vacances dans le Var, sur la Côte d'Azur. Et on était dans les embouteillages, le trafic était vraiment terrible. Et là, il faisait super chaud, le soleil brûlait et on était là essayant de créer de l'air, de respirer. Et sans la clim, vous savez, pendant des heures et des heures, dans les bouchons, c'est juste terrible. Et je me souviens que ma femme, on était là et on regardait avec envie les voitures dont les fenêtres étaient fermées, les gens étaient à l'aise, relax, tout allait bien. Alors, lorsqu'on a décidé d'acheter une nouvelle voiture, je dis « Seigneur, je veux absolument l'option climatisation ». Vous comprenez cela? Et aujourd'hui, c'est compliqué d'être sans la clim, surtout quand tu fais de la route et qu'il fait chaud. Alors, ça peut être une bonne voiture qui roule, mais une voiture peut être améliorée par des options. Est-ce que vous êtes avec moi? Le truc, c'est quoi? C'est qu'on peut être chrétien, véritablement chrétien, né de nouveau, aimer Jésus, marcher avec lui, aller à l'église, lire la parole de Dieu, être fidèle, témoigner, donner, aimer, encourager, etc., etc. Mais Dieu a prévu pour nous des options supplémentaires. Et ces options, c'est les dons spirituels. Allô? Dieu veut qu'on soit équipé par des options spirituelles qu'il appelle des dons spirituels ou des charismes. Dieu veut cela pourquoi ? Pour que nous soyons plus efficaces dans notre action, dans notre ministère, dans notre évangélisation, dans notre service. Et Dieu veut cela également pour que nous soyons une bénédiction autour de nous. Nous avons besoin des dons spirituels. Un chrétien a besoin des dons spirituels. Alors, prochain slide. Avant d'entrer dans le vif du sujet sur les dons relevant de la parole, je voudrais vous donner quelques points sur les dons spirituels, quelques points importants. Peut-être que ça a été vu par les prédicateurs antérieurs, mais je voudrais peut-être juste citer ces choses-là. Alors, les dons spirituels, ce sont des dons, des charismes, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça relève de la grâce. Ok ? Ça ne dépend pas de mes efforts, ça ne dépend pas de mes capacités, c'est la grâce de Dieu. Ok ? Deuxième chose, ils viennent du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de moi ou de mes efforts, ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors, on a besoin du Saint-Esprit. Autre chose, ça ne dit rien de la maturité. On peut avoir des dons spirituels, être rempli de charisme, avoir des dons exceptionnels de prophétie, de guérison, etc., etc. Et ça ne dit rien de ma maturité spirituelle, ok ? Parce que c'est la grâce de Dieu. Autre chose, c'est dans l'amour que ça doit être pratiqué. Les dons spirituels, et ça c'est tout l'objet d'un Corinthiens 13, ça doit être pratiqué dans l'amour, dans l'encouragement et dans l'édification. Et jamais dans le fait de blesser, pour détruire ou dans de mauvaises motivations. Ok, autre chose, les dons spirituels doivent être pratiqués avec un cœur pur et avec de bonnes motivations. Les dons spirituels, on peut progresser dans l'exercice de ces dons. Le Seigneur t'a donné des dons spirituels, mais écoute-moi bien, ce n'est pas le point final. Le Seigneur veut que tu progresses dans l'exercice des dons spirituels, dans la façon d'apporter et dans la façon de recevoir. Les dons spirituels, autre chose, ce n'est pas pour notre promotion. Ce n'est pas pour accéder à un rang supérieur dans l'Église. Ce n'est pas pour un ministère autre. Ce n'est pas pour notre promotion. Ce n'est pas pour notre gloire. Et finalement, les dons spirituels sont toujours, toujours pour mettre la lumière sur Jésus, pour glorifier Jésus, que quelqu'un dise amen à cela. Ok. Alors aujourd'hui, on va voir donc les dons relevant de la parole. Et c'est particulièrement trois dons. C'est les dons des langues, le don d'interprétation et le don de prophétie. Alors, c'est rigolo parce que quand je préparais ce passage, je me suis souvenu de quelque chose. À l'âge de 14 ans, lorsque j'ai eu ma première expérience de baptême dans l'esprit, c'est les trois dons que j'ai expérimentés. Je me souviens de ce moment-là où c'était dans cette église où j'avais donné mon cœur à Jésus. Et on avait un temps de chambre haute. Le pasteur appelait ça chambre haute. Et alors on était dans cette salle au-dessus de la salle principale. Et on était dans un temps où on recherchait la plénitude du Saint-Esprit. Et le pasteur a posé sa main sur moi. Et au moment où il a posé sa main sur moi, j'ai senti comme littéralement une puissance m'envahir, me remplir littéralement de la tête aux pieds. Et à ce moment-là, j'ai commencé à parler en d'autres langues, des langues inconnues que je ne connaissais pas. Ensuite, après cela, j'ai reçu des paroles prophétiques, des paroles inspirées que j'ai commencé à exercer en communauté dans l'église. Et aussi des paroles d'interprétation. Alors là, écoute-moi bien, aujourd'hui, au début de l'année 2020, il est possible que tu vives une effusion du Saint-Esprit et que Dieu active en toi ses dons spirituels. Quelqu'un dit amen à cela. Vous êtes là ou pas? Ça marche bien? Ok. Alors, on va voir aujourd'hui, premier point, le don des langues. Alors, je dois vous dire quelque chose. Vous avez invité un pasteur pentecôtiste à prêcher, charismatique à prêcher. Alors, je vais le prêcher avec ma doctrine, ok ? Avec ce que je crois. Et c'est possible qu'ici, certains ne croient pas ce que je crois, soyez bénis, mais voilà, ok ? Je vous le dis quand même. Alors, premièrement, le don des langues. Alors, il y a une distinction à faire par rapport à l'exercice du parler en langue et des dons des langues. La distinction, c'est entre le public et le privé. Alors, il y a des dons des langues, à parler en langue qui est pour le public, et il y a un exercice du parler en langue qui est pour le privé. Et souvent, il y a une confusion dans le corps de Christ par rapport à cela. Et je voudrais vous expliquer cela. Alors, premièrement, l'exercice du don des langues, du parler en langue pour le public, pour le ministère public. Alors, dans ce cas-là, on parle d'un charisme. Et ce charisme n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas appelé à recevoir le don des langues pour l'exercice public. Alors souvent, c'est des langues connues ou ça peut être également des langues inconnues, des langues célestes. Et il y a dans le parler en langue public, dans l'exercice public du parler en langue, deux sous-catégories. Est-ce que vous êtes avec moi? La première sous-catégorie, c'est les langues connues comme un signe. Prochain slide. Alors, ok, parler en langue, don des langues, deux catégories, public, privé. Dans le public, il y a deux sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est l'exercice des dons d'un don en langue connu comme un signe. On va lire ensemble 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. Je vous laisse faire tout le passage, on n'a pas le temps ce matin, j'ai beaucoup de choses à parcourir. Par conséquent, les langues sont un signe pour les non-croyants, mais pas pour les croyants. À ce moment-là, l'apôtre Paul parle du parler en langue qui est un signe, qui est un signe d'émerveillement et qui peut amener à la conversion des non-croyants. D'accord ? Et à ce moment-là, c'est quoi ? Ce sont des langues connues, des langues terrestres qui peuvent amener un non-croyant à dire « Waouh, je ne sais pas comment cette personne parle ma langue, mais de manière spirituelle et surnaturelle, il parle une langue qu'il ne connaît pas, qui est ma langue, que je comprends. » Et à ce moment-là, ça touche les cœurs et ça produit l'émerveillement et ça peut amener des gens au salut. C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 2. Lorsque le Saint-Esprit est descendu au moment de Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et les gens qui étaient là, les Juifs de la diaspora qui étaient là à Jérusalem, les entendirent parler leur langue maternelle. Ils se sont dit, comment ces gens-là, qui sont les gens du peuple, sans éducation, peuvent parler ces langues-là? C'est certainement l'Esprit de Dieu. Ils parlent les merveilles de Dieu. Ils disent les merveilles de Dieu. C'était un signe pour les non-croyants à ce moment-là. Est-ce que vous êtes là, Église? Alors ça, c'est quoi? C'est l'exercice public du parler en langue qui est un signe pour les non-croyants. Ensuite, deuxième sous-catégorie. Le parler en langue inconnu suivi d'interprétation. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 30. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger et à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Non. Ok, je réponds à la question. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils enseignants? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous sont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Alors vous allez me dire, ok, est-ce que ce don-là est-il pour tout le monde? Non. Le don public du parler en langue inconnue suivi d'interprétation n'est pas pour tout le monde. C'est un charisme que Dieu distribue à qui il veut. Est-ce que vous êtes là, Église? Ok. Et alors, ce don-là doit être suivi d'une interprétation. Mais il est important de comprendre cette distinction. Si on ne comprend pas cette distinction, on ne comprend pas ce que dit l'apôtre Paul dans le passage suivant. Prochain slide. 1 Corinthiens chapitre 14, versets 22 et 23. Par conséquent, les langues, et là, premièrement, Paul parle des langues connues comme un signe, ok, sont un signe pour les non-croyants, ok. Un peu plus loin, verset 23, toujours dans le même contexte. Si donc, alors que l'Église entière est rassemblée, tous parlent en langue, et à ce moment-là, Paul parle des langues célestes suivies d'interprétation, et qu'il entre de simples auditeurs ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Alors, si on ne comprend pas la différence entre le parler en langue connu, donc qui est un signe pour les non-croyants, et le parler en langue inconnu suivi d'interprétation, on ne comprend pas ce que dit l'apôtre Paul. On dit, mais il y a une contradiction. Il dit qu'au début, il dit que le parler en langue, c'est super pour les non-croyants. Puis juste après, il dit que ce n'est pas super, attention. En fait, l'apôtre Paul ne parle pas tout à fait du même parler en langue. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok. Maintenant, on va dans le parler en langue privé. Le parler en langue privé est une prière en langue. La prière en langue publique s'adresse à un public, soit croyant ou non croyant. Le parler en langue privée est une prière qui s'adresse à Dieu. On l'appelle prière en langue dans le milieu charismatique ou pentecôtiste. On l'appelle également prière en esprit ou langage de prière. Et je crois que cela s'adresse à tous les croyants. C'est ce que je crois. Je crois que tous les croyants peuvent parler, prier en langue dans le sens du ministère privé. Je crois également que cette prière en langue est pour notre propre édification. On va voir ça ensemble. Et je crois également que cette prière-là nous amène dans une autre dimension dans notre vie de prière. Alors, on va lire un passage dans 1 Corinthiens au chapitre 14, versets 14 et 15. Je vais également vous dire ceci. c'est que par rapport au parler en langue privée, il y a également deux sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est la prière en langue pour sa propre édification. Et là, on lit le passage. En effet, si je prie en langue, ok, notez bien le passage, notez bien les mots. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Que faire donc ? Je prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. On va au verset 4 maintenant. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Alors l'apôtre Paul ici parle de quoi ? Il parle de la prière en langue pour sa propre édification. Il parle de la prière en langue, ok, entre nous et Dieu, qui nous amène dans une autre dimension de prière, qui nous amène à nous édifier soi-même, qui nous amène à grandir soi-même. Moi, il y a des moments, vous savez quoi ? Je ne sais pas comment prier. Alors qu'est-ce que je fais ? Je prie en langue. Et les moments, souvent lundi matin, après les deux célébrations du dimanche, après avoir prié pour plein de gens, après avoir conseillé les gens, je suis fatigué le lundi matin. Vous savez ce que je fais dans mon temps de prière, de dévotion ? Je prie en langue. Allô, vous êtes là ? Et tous les jours dans mon temps de prière, je prends au moins 10 à 15 minutes pour prier en langue. Alors, prochain slide. Regardez cet homme, prochain slide. Cet homme-là s'appelle Justin Welby. Et c'est l'archibishop de Canterbury qui est un des chefs, principaux de l'église anglicane, donc en Angleterre. Et c'est un leader mondial dans le milieu, dans le monde chrétien. Et ce gars-là, donc qui est pas des moindres chefs de l'église anglicane, est aussi un homme rempli de Saint-Esprit, c'est un charismatique. Et un jour, j'ai regardé une interview de lui qui était assez intéressante, où il était interviewé par une chaîne de mass media, une chaîne britannique. Et on lui posait la question, il paraît que vous êtes charismatique, parlez-vous en langue ? Et vous savez, avec la classe britannique, la classe qu'ont les British, il était là très calme, il dit oui, ça fait partie de ma routine quotidienne. Je prie en langue tous les jours. Point final, autre question. Okay. Et moi, je regardais ça et je trouvais ça fascinant. Qu'en fait, que cet homme-là, sans complexe, sans crainte, quelqu'un qui est reconnu mondialement, le chef de l'église anglicane, un des chefs de l'église anglicane, dise devant les médias, devant tout le monde, qu'il prie en langue chaque jour. Et je trouvais ça super. Alors écoutez bien, One Heart, je sais que ce n'est pas trop dans votre théologie. Je sais que certains disent « Oh, je ne suis pas à l'aise avec ça. » Mais je crois que Dieu t'appelle à t'édifier par le parler en langue quotidien. Je crois que tu es rempli du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu est en toi et que juste à ouvrir la bouche, à avoir la foi et à faire confiance à Dieu pour parler en langue. Vous êtes là ou pas ? Alors certains me disent, est-ce que tu crois que ceux qui ne parlent pas en langue ne sont pas baptisés du Saint-Esprit ? Non, je ne crois pas cela. Je crois qu'en fait, on peut être baptisé du Saint-Esprit et ne pas parler en langue. Je crois cela. Parce qu'on peut être dans l'eau et ne pas naviguer dans l'eau. Alors ça demande quoi ? Ça demande la foi d'ouvrir sa bouche et d'oser parler. D'oser parler en langue, d'oser prier en langue. Ok, alors ça c'est le parler en langue pour sa propre édification, la prière en langue pour sa propre édification. Il y a également la prière en langue dans un but d'intercession. Prochain slide. Romains, prochain slide encore. Encore. Voilà, super. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même, l'Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Dis avec moi, intercède pour nous. Par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu examine les cœurs, qui examine les cœurs sait quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est en accord avec lui qu'il intercède en faveur des saints. Il y a des moments où on ne sait pas comment intercéder, et à ce moment-là, le Saint-Esprit vient avec des soupirs inexprimables. Et moi, je crois que ce texte-là parle du parler en langue. Alors, il y a des moments où on ne sait pas comment prier, et on a besoin que le Saint-Esprit nous aide, et il nous aide à intercéder dans une plus grande mesure. Vous savez quoi ? je crois que le Saint-Esprit peut nous donner d'intercéder pour des sujets qu'on ne connaît même pas, peut-être au bout du monde, pour un chrétien au bout du monde, quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, mais l'Esprit de Dieu le connaît et il vient vers toi et parler en langue, tu peux intercéder pour cette personne et il est possible qu'il y ait une intervention divine alors que tu es en train de prier en langue à Montreuil, à Paris, dans le 11e, dans le 13e, je ne sais pas, parce que l'Esprit de Dieu te pousse à prier de cette manière, parce que l'Esprit de Dieu t'inspire à prier de cette façon. Est-ce que vous êtes là? Moi, je l'ai vu ça, vous savez, dans les moments de délivrance. Des moments où, ça m'arrivait, des moments où j'étais comme dans un nœud spirituel, où je ne savais pas ce qui prenait place, où je voyais la résistance littéralement démoniaque et je ne savais pas comment prier. Et à ce moment-là, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Et je me mets à prier, à intercéder en langue. Et alors que j'intercède en langue, je comprends pas tout, je saisis pas tout sur le plan humain, mais à ce moment-là, il y a des situations qui se débloquent et j'ai vu des délivrances extraordinaires s'opérer alors que le Saint-Esprit intercédait à travers moi par la prière en langue. Est-ce que vous êtes là? Alors ça, c'est la prière en langue pour l'intercession. Alors écoute-moi bien, Dieu veut utiliser des gens ici pour le don en langue, le ministère public du don en langue. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Alors dans une plus grande mesure, je crois que Dieu veut amener chaque croyant à expérimenter la prière en langue pour s'édifier soi-même, pour grandir soi-même, pour passer dans une autre dimension de prière. Je le sais, écoutez bien, des fois on est fatigué dans la prière et je l'ai vu lorsque je me mets à prier en langue, il y a une force qui vient en moi, il y a une énergie qui vient en moi, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient m'édifier, qui vient me construire, qui vient me renouveler. Quelqu'un dit amen à cela. Et Dieu veut que tu expérimentes cela aujourd'hui. Amen. Ok. Deuxièmement, le don d'interprétation. Je vais aller très vite sur le don d'interprétation. 1 Corinthiens 14, 13 dit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Le don d'interprétation des langues, c'est quoi? Alors, c'est lorsqu'il y a un don en langue publique, celui-ci doit être suivi d'une interprétation. Et Paul insiste là-dessus. Alors, il s'agit quoi? D'une interprétation, pas d'une traduction. Je crois qu'à ce moment-là, l'apôtre Paul parle particulièrement d'une langue céleste, inconnue, d'accord? Et à ce moment-là, il doit y avoir une interprétation. Pas une traduction mot à mot, une interprétation. Alors, certains disent, est-ce qu'il est possible de parler des langues célestes, des langues angéliques? Je le crois. L'apôtre Paul dit, même quand je parlerai le langage des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Okay. Alors je crois qu'il y a un langage angélique, je crois qu'il y a un langage dans les cieux. Vous savez que la parole de Dieu le déclare, c'est que Jésus a un nom dans le ciel qu'on ne connaît pas. C'est écrit dans les Écritures. Alors je crois qu'il y a des langues dans le ciel, ça me dépasse, je ne comprends pas tout. Mais à ce moment-là, le Saint-Esprit nous remplit et il est possible de parler des langues célestes qui doivent être suivies d'une interprétation. Ok. Troisièmement, le don de prophétie. Alors, je vais m'étendre un peu plus sur le don de prophétie. Prochain slide. Rechercher l'amour, aspirer au don spirituel, mais surtout au don de prophétie. Dites avec moi, surtout. Ouais, on va le refaire. Comme si vous étiez réveillé. Surtout à la prophétie. Ok. Le don de prophétie est spécial. L'apôtre Paul dit rechercher tous les dons. Ok. En fait, les dons spirituels, c'est la grâce de Dieu. Okay, Dieu distribue comme il le souhaite, c'est sa grâce. Mais quand même, Paul nous dit rechercher, aspirer. Donc on doit aspirer aux dons spirituels. J'espère qu'il y a une église ici à Montreuil, 62 rue Beaumarchais, qui recherche, qui aspire aux dons spirituels. Vous êtes là? Est-ce qu'il y a des croyants qui recherchent les dons spirituels ici? Le Saint-Esprit parle, l'apôtre Paul nous dit de rechercher, d'aspirer au don spirituel, mais surtout au don de prophétie. Alors le don de prophétie est spécial dans le cœur de l'apôtre Paul, parce qu'il nous dit de rechercher particulièrement le don de prophétie. Alors il y a une distinction à faire entre le don de prophétie et le ministère de prophète. Alors encore une fois, vous avez devant vous un charismatique qui croit dans les cinq ministères, apôtre, prophète, pasteur, enseignant, évangéliste. Alors je crois dans les deux, dans les cinq ministères actuels présents aujourd'hui. Et je crois qu'il faut distinguer le ministère prophétique du don de prophétie. n'est pas parce que tu exerces le don de prophétie que tu es un prophète. D'accord ? Il y a une différence entre cela. En fait, le ministère de prophète, c'est tout ce qui est prophétique. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus, mais il y a une distinction à faire. Alors, le but de la prophétie, c'est quoi ? 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les encourage et les réconforte. » Alors ça, c'est le but de la prophétie. Le but de la prophétie, dans le Nouveau Testament, ça a trois objectifs. Édifier, encourager et réconforter. Ok, dites-le avec moi. Édifier, encourager, réconforter. Alors, il y a une distinction ici entre les prophéties de l'Ancien Testament et celles du Nouveau Testament. Et c'est très important de comprendre cela. Dans le Nouveau Testament, on est dans l'ère de la grâce. Il y a un acte, et c'est l'acte de la croix, qui a créé quelque chose de phénoménal et qui nous a transformés et qui a également même transformé la façon dont on vit le prophétique. Alors, dans l'Ancien Testament, la prophétie avait autorité de la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle les prophètes se levaient et disaient « Ainsi parle l'Éternel ». Parce que la prophétie avait autorité de parole de Dieu. Ok. Dans l'Ancien Testament, la prophétie était directive. Tu dois aller là. Tu n'as pas d'autre option. C'est une direction. Ce n'est pas une alternative, c'est une direction. Dans l'Ancien Testament, la prophétie était donnée uniquement par les prophètes. Il n'y avait que les prophètes qui recevaient la prophétie, qui exerçaient la prophétie. Dans l'Ancien Testament, le plus souvent, la prophétie était pour la nation d'Israël. Elle avait un but national. Okay. Dans l'Ancien Testament, la prophétie était non négociable. Okay. Ça, c'est tout ça dans l'Ancien Testament. Maintenant, on va voir dans le Nouveau Testament. Et il y a une différence notoire. Dans le Nouveau Testament, la prophétie a pour but d'édifier, d'encourager et de réconforter. La prophétie dans le Nouveau Testament a un but de conseil. Okay. Elle n'a pas autorité de parole de Dieu. C'est très important de comprendre cela. Dans le Nouveau Testament, la prophétie a un but informatif. Dans le Nouveau Testament, la prophétie peut être donnée par tous. Et pas uniquement par les prophètes. Dans le Nouveau Testament, elle est plus souvent pour des individus ou pour des églises locales, de temps en temps pour des nations, et souvent les prophètes le font, mais plus souvent pour des individus ou pour des églises locales. Et dans le Nouveau Testament, la prophétie doit être jugée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelqu'un te donne une parole prophétique que tu dois la prendre telle qu'elle est. La prophétie, l'apôtre Paul nous dit de juger la prophétie. D'accord ? Donc il y a un distinguo à faire entre la prophétie de l'Ancien Testament et la prophétie du Nouveau Testament. L'apôtre Paul nous dit « Recherchez surtout la prophétie ». Alors je voudrais vous donner des éléments pour comment vivre le don de prophétie. Et je crois que le don de prophétie est pour chacun, pour chaque croyant. Alors, première étape, j'écoute. Nous devons apprendre à écouter. Pourquoi ? Parce qu'avant de parler, il faut entendre Dieu nous parler. Ça commence par quoi ? Par faire silence dans nos cœurs pour entendre la voix de Dieu. Vous savez, on est ici en région parisienne dans un brouhaha constant. C'est le brouhaha des métros qui en ce moment fonctionne moins. On est d'accord avec ça ? Ok, en tout cas, ça peut être le brouhaha des manifestations. Okay. Le brouhaha des gilets jaunes, le brouhaha, plein de choses. Le brouhaha, le désordre dans nos cœurs, dans nos vies, tellement de choses à gérer, tellement de choses à faire. Et les mamans, moi j'ai compassion des mamans, parce que les mamans et les femmes ici, vous êtes incroyables, vous gérez tellement de choses. Vous gérez la maison, vous gérez le travail, vous gérez les enfants, vous gérez votre mari. Les femmes disent amen à cela. Okay. Tellement de choses à gérer. Ok. Alors, il faut apprendre parfois, vous savez, le Saint-Esprit, le Seigneur nous appelle à faire silence dans nos cœurs afin d'entendre la voix de Dieu. Alors, on doit prendre garde aux pensées spontanées. Parfois, vous savez, il y a des pensées spontanées qui viennent allumer une lumière en nous. Tu dis, c'est bizarre, je ne pensais pas à ça et tout d'un coup, ça monte dans mon cœur. Écoute-moi, la prophétie peut venir d'une pensée spontanée qui monte dans ton cœur, tu ne pensais pas à cela, et tout d'un coup, ça allume quelque chose en toi. Prends garde à cela, note ces pensées spontanées. Prends garde aux visions lorsque tu pries. Il y a des moments où on prie, puis on dans les yeux fermés, puis on a des visions intérieures. On voit des choses. Et c'est quoi? Ça peut être une parole prophétique de Dieu. Alors, note-les. OK. Écris les prières que tu demandes au Seigneur et aussi parfois les réponses que tu peux avoir au moment où tu lis la parole, au moment où tu as une pensée spontanée, où tu as une vision. Autrement dit, apprends à écouter. Est-ce que tu apprends à écouter? Lorsque tu lis les Écritures, apprends à écouter. Lis pas ça de manière juste, comment dirais-je, juste routinière, juste ok, je le fais parce que je dois le faire. Mais prends le temps de lire, de digérer, d'écouter Dieu, de noter la parole. Ok. Deuxièmement, Dieu parle. Nous devons découvrir comment Dieu parle. Vous savez que Dieu a son langage, Dieu parle. Avec mon épouse, on a appris à découvrir chacun, vous savez, notre langage d'amour. Et on n'a pas le même langage d'amour. Alors, au fil des années, vous savez, de mariage, on a appris à découvrir notre langage d'amour. Et tu dois apprendre à découvrir le langage que Dieu a avec toi. Alors, Dieu parle, il faut découvrir son langage. Dieu, c'est très important de le dire, parle premièrement par les Écritures. La Bible, c'est la base. Dis avec moi, la Bible, c'est la base. Ok. Dieu parle premièrement par la parole de Dieu écrite. Alors, c'est important d'aller dans les Écritures. C'est important de connaître sa Bible. C'est important de lire les Écritures. Et c'est un fondement fondamental. Dieu parle par la parole de Dieu écrite, mais Dieu parle par autre chose également. Et ça, c'est biblique. La voix de Dieu, ça peut être une voix intérieure. Ok, des fois, j'entends intérieurement, il y a une voix intérieure. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais une voix intérieure qui résonne en moi. Et ça, c'est la voix de Dieu. Ça peut être également, et c'est biblique, des fois, ça peut être une voix audible. Les gens ne l'entendent pas, peut-être ils l'entendent, mais il y a une voix audible qui résonne. Ok. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est la voix du Père qui se faisait entendre lorsque Jésus était au moment de son baptême. Ok, la voix de Dieu était audible à ce moment-là. Ok, donc Dieu peut parler de cette façon. Ça peut être des pensées, je l'ai dit. Ça peut être des impressions. Parfois, c'est des impressions physiques. Des fois, c'est des impressions émotionnelles. Dieu peut parler à travers des rêves. Dieu parle à travers des rêves. Moi, j'ai une collègue qui est en train de s'approcher de Jésus. Elle est musulmane. Et en fait, elle n'arrête pas de me dire qu'elle rêve de Jésus. Elle n'arrête pas de me dire, elle me dit récemment, j'ai rêvé de toi, j'étais dans ton église et tu m'as invité. Et à ce moment-là, c'était extraordinaire, il y avait de la joie, il y avait plein de jeunes, etc., etc. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est un rêve. Elle voit Jésus, elle voit l'église, elle se voit dans l'église et Dieu est en train de lui parler. Vous êtes là? C'est ça, les amis. Alors Dieu peut parler à travers des rêves, Dieu peut parler à travers des visions. Des fois, ça peut être des visions intérieures, fermées. J'ai les yeux fermés et je vois des choses. Il y a des moments, ça peut être également comme une vision ouverte. C'est comme si j'ai un écran devant moi et je vois littéralement ce qui se passe. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos. Et sur l'île de Patmos, je crois qu'il a été non seulement transporté, mais il a vu des choses. C'est une vision ouverte. D'accord? Alors, Dieu parle de ces façons-là. Mais Dieu est créatif. Alors, ils peuvent parler de diverses manières. Jésus, par moment, était là, et puis il voyait un élément de la nature, il voyait de la terre, il voyait ceci, puis il se mettait à prêcher là-dessus. Ok. Dieu parle de diverses façons. Dieu est créatif. C'est la raison pour laquelle le prophétique est relationnel. C'est une relation avec Dieu. Le prophétique est une histoire de relation avec Dieu. Ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu est un bon père et pas un patron. Allô? Vous êtes là ou pas? Dieu est un bon père et pas un patron. Donc Dieu veut parler comme un bon père, comme un bon papa. Dieu, c'est Abba. Jésus nous a dit de prier de cette manière. Abba! Papa. Et alors, il y a cette révélation de Dieu comme étant un bon père, comme étant papa. Alors, le père te parle comme un bon papa. Avec tendresse, affection, amour, encouragement. Et ça, c'est le cœur même de la prophétie. Quelqu'un dit amen à cela. Troisièmement, après avoir écouté, après avoir compris comment Dieu parle. Troisièmement, je parle. Nous devons parler et nous devons parler d'une bonne façon. C'est important de parler d'une bonne façon. Parfois, vous savez, on a reçu quelque chose de Dieu. Des fois, Dieu peut-être nous a montré quelque chose sur la vie de quelqu'un. C'est possible. Est-ce que c'est possible que spirituellement, à travers le don spirituel de la prophétie, on ait vu le péché de quelqu'un? C'est totalement possible, absolument. Mais maintenant, c'est notre responsabilité de bien la porter. De ne pas arriver en disant, hey, « Dieu m'a montré qu'il y a ça dans ta vie. » Non, 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 non. Ok, la parole prophétique, c'est pour édifier, encourager, réconforter. En dévoilant un péché comme ça, tu fais tout sauf édifier, encourager et réconforter. Vous êtes là ou pas? Ok? Alors, c'est notre responsabilité de l'apporter d'une bonne façon. Comment? Avec amour, avec humilité. Ok, c'est Jésus et pas nous. Et avec simplicité. D'accord? Et ça, c'est très important. Parce que parfois, vous savez, je vois dans le corps de Christ des gens qui exercent la prophétie. Et parfois qui exercent avec acuité. Qui sont aiguisés dans l'exercice de la prophétie. Mais qui l'exercent d'une mauvaise façon. Et ça fait des dégâts dans le corps de Christ. Ça détruit dans le corps de Christ. Moi, récemment, quelqu'un qui m'a montré ceci. Qui me disait ceci, qu'il voyait des choses de destruction par rapport à la France, par rapport à tout ça, etc. Et il dit, et voici ce que Dieu va faire. Et j'ai dit, ok, stop. J'écoute-moi, on est dans l'ère de la grâce. Tu ne comprends pas la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jésus est venu et il publie un temps de grâce. Un jour, Jésus reviendra et lorsqu'il reviendra, il viendra juger les nations. Mais jusqu'à ce que Jésus revienne, on est dans l'ère de la grâce. Allô? C'est là ou pas? Alors je dis peut-être que ça tu l'as vu et tu as vu peut-être des plans de destruction qui arrivent, qui peuvent arriver. Mais ta responsabilité c'est d'intercéder et de prier pour ne pas que ces choses arrivent. Allô? Alors c'est ça. Alors toi tu dois déclarer le contraire. Écoute-moi, One Heart. Si Dieu te donne une parole prophétique pour quelqu'un et tu ressens prophétiquement qu'il y a un péché ou quelque chose sur la vie, quelque chose de négatif, déclare le contraire sur la vie de cette personne. Dis-lui, peut-être que, ok, tu as vu un problème lié, ok, à un problème de sanctification, ok. Personne ne vit pas dans la sanctification. Au lieu de dire, il y a un péché dans ta vie, dis-lui, je sens que Dieu va t'amener dans une saison de sanctification. Dieu a ce projet pour ta vie. Dieu veut t'amener là-dedans. Tu vas grandir dans la sainteté. Déclare ceci sur sa vie, au lieu de montrer du doigt, de pointer du doigt et de déclarer des choses de mort. Allô? C'est très important. Et lorsqu'on fait cela, on vit les dons spirituels et la prophétie d'une manière biblique dans le Nouveau Testament avec la grâce de Dieu. Les amis, je voudrais vous dire ceci. Je finis. Je demandais à mon ami au piano de bien vouloir revenir. Les dons spirituels, c'est des options que Dieu a prévues pour nous. Ce n'est même pas des options payantes. C'est des options gratuites. C'est la grâce de Dieu. Mais le Seigneur veut qu'on ait des cœurs ouverts. Le Seigneur veut qu'on demande. Il nous demande juste d'aspirer. Écoutez-moi bien, vous avez le Saint-Esprit, nous avons le Saint-Esprit. Ce n'est pas une question, est-ce qu'on a le Saint-Esprit ou pas, nous avons le Saint-Esprit. En fait, la différence c'est quoi? C'est est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit activer des choses en nous? Est-ce qu'on va laisser le Saint-Esprit, comment dirais-je, travailler en nous? Ou est-ce que juste on va rester là, juste être bloqué et ne pas laisser le Saint-Esprit agir? Les dons spirituels, ça a eu un impact formidable dans ma vie. Je vais finir avec ces deux histoires. La première histoire, c'était lorsque je ressentais l'appel de Dieu alors que j'avais 14 ans sur ma vie. Je lisais les Écritures et je ressentais que Dieu m'appelait au ministère. Mais je ne savais pas quand, comment. Moi, je ne connaissais rien à tout cela. Mais je dis, Seigneur, parle-moi. Et je dis, Seigneur, je voudrais que tu me parles dans un camp de jeunesse qui allait arriver. Je voudrais que tu me parles particulièrement le dimanche matin. Parce que mes parents allaient être là au camp de jeunesse et je ne voulais pas qu'ils soient là. Mais le seul moment où mes parents étaient absents d'une réunion, c'était le dimanche matin. Alors je dis, Seigneur, je voudrais que tu me parles le dimanche matin. Alors ça commence le vendredi soir, pas de parole de Dieu. Enfin, samedi, toute la journée, pas de parole de Dieu par rapport à l'appel. Et le dimanche, le pasteur se lève et dit, toute la nuit j'étais travaillé. Le Seigneur m'a réveillé dans la nuit plutôt. Et dit, j'ai une parole prophétique. Il y a des jeunes ici, particulièrement un jeune, tu as fait une prière par rapport à l'appel de Dieu. Et je voudrais te dire ceci, Dieu t'appelle au ministère, Dieu t'appelle à prêcher sa parole. À ce moment-là, cette parole prophétique-là est venue percer mon cœur à l'âge de 14 ans. Je suis tombé en larmes, à genoux. J'ai répondu à l'appel de Dieu. J'ai dit, oui Seigneur, je veux te servir. Oui Seigneur, ma vie est pour toi. Oui Seigneur, je réponds à l'appel de Dieu. La parole prophétique est venue à ce moment-là transformer ma vie de manière incroyable. C'est venu transformer, bouleverser le cours de mon existence. Changer ma vie. Récemment, vous savez, j'étais un peu, comment dirais-je, attristé par les événements en Australie. Et j'ai essayé d'expliquer à mon fils Augustin ce qui prenait place, les incendies en Australie, et le fait de préserver notre planète. Et j'ai parlé de la destruction, non seulement de la nature, puis des animaux, des koalas, des kangourous. C'était terrible. Et alors que j'ai parlé de ça, à un moment je suis dans la cuisine, puis je pense à ça, je dis quand même, c'est juste terrible ce qui prend place. Et tous ces animaux qui sont détruits, toute la nature qui est détruite. Parce que je crois que c'est notre responsabilité aussi en tant que chrétien. Vous savez, notre responsabilité en tant que chrétien, c'est pas juste d'être là dans nos quatre murs d'église et de regarder le monde et juste on vit nos choses. Notre responsabilité en tant que chrétien, Dieu nous a donné un mandat pour prendre soin de cette planète. Amen. Et j'étais là dans la cuisine. À un moment, Augustin arrive et je sais pas comment ni pourquoi. Et il arrive comme ça et mon fils Augustin, il a 5 ans, c'est un Français, il n'a jamais quitté la France, d'accord, à part pour aller en Belgique, c'est le seul endroit, ok. Et il ne parle pas anglais, à part, il sait compter jusqu'à 10, il sait dire rouge, il sait dire bleu, il sait dire jaune en anglais, c'est à peu près tout, il sait dire comment il s'appelle, my name is. Puis là, il arrive dans la cuisine et vient vers moi et il dit ceci, the king is coming, the king is coming, the king is coming. Tu crois? Qu'est-ce que tu dis? Il me dit, the king is coming. Ça veut dire quoi? Il dit, je ne sais pas. The king is coming. Je dis, où est-ce que tu as entendu ça? C'est maman qui a dit ça, non? Il dit, the king is coming. Je dis, qu'est-ce qu'il dit? J'ai bien clair. D'où il sort ça? Est-ce qu'il a entendu ça dans le Roi Lion? Ok. Il l'a vu en version française. Ok. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? Il me dit, je ne sais pas, the king is coming. Okay, je ne sais pas l'expliquer, mais à ce moment-là, ça faisait suite à cette discussion qu'on a eue. Il ne sait pas pourquoi il sortait ça, il ne sait même pas ce que ça veut dire, mais il dit « The king is coming, the king is coming, the king is coming ». Et à ce moment-là, je dis « Seigneur, qu'est-ce que ça signifie ?» Et Seigneur, je crois, j'ai eu ce sentiment que Seigneur me dit « Je suis au-dessus de cela, je suis au-dessus de ça, je règne, je viens, je règne, je suis au-dessus de cette situation. » Et je dis « Seigneur, pourquoi en anglais ?» Le Seigneur me dit pour que tu le comprennes, mais lui ne comprend pas. Et le Seigneur me dit ceci, c'est que je veux que tu comprennes que je te parle et que c'est moi qui suis derrière ces mots. Wow. Vous savez quoi? Ça, je crois que c'était un parlant en langue. Mon fils ne parle pas anglais. Il ne sait pas ce que ça veut dire « The king is coming ». Vous êtes là? Ok. Alors ça, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous équiper. Le Saint-Esprit veut nous remplir. Le Saint-Esprit veut nous donner des dons spirituels. On va se lever ensemble, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais prier pour vous. One Heart, je vous aime. Vous êtes une église chère, très chère à mon cœur. Je voudrais prier pour vous, pour les dons spirituels. L'apôtre Paul dit ceci, je suis pressé de venir vous voir, je paraphrase, mais il dit, je suis pressé de venir vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels, afin de vous transmettre quelques dons spirituels. Alors je vais prier pour vous maintenant, pour que vous puissiez recevoir quelques dons spirituels au nom de Jésus. Amen. Très simplement. La question c'est, est-ce que votre cœur est ouvert? Est-ce que vous aspirez à recevoir? Alors je vais confirmer les yeux ensemble. Je vais prier pour vous. Puis après, je vais vite partir parce qu'on doit vite aller à l'église Impulsion avec en famille parce qu'on a, on a une école de disciples, on a plusieurs choses et je dois vite filer, donc je suis désolé, je pourrais pas rester, je pourrais pas discuter avec vous, j'aurais aimé le faire, mais je dois très très vite, on doit très vite partir. Et avant de partir, je voudrais prier pour vous. C'est les gens ici qui aspirent. Ils disent, je veux recevoir. Je veux, comment dirais-je, recevoir les promesses de Dieu. Je crois que les dons spirituels sont encore pour aujourd'hui. Je crois que les dons spirituels ne se sont pas arrêtés au moment du canon biblique. Je crois que les dons spirituels sont pour aujourd'hui. Amen. Je crois que notre monde a besoin d'une église remplie du feu de l'Esprit de Dieu. Amen. Je crois que Montreuil a besoin d'une église remplie du feu de Dieu et qui puisse exercer les dons spirituels d'une bonne façon. Alors, si tu aspires à recevoir aujourd'hui, simplement je compte jusqu'à 3 et tu lèves ta main et je voudrais prier pour toi. 1, 2, 3. Alors, tous les yeux sont fermés. Si vous voulez recevoir, levez la main. Plusieurs ici. Merci. 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 Alléluia. Merci Seigneur. Alors juste on lève les deux mains ensemble pour ceux qui veulent recevoir. Je veux simplement prier pour vous. Vous pouvez faire cette prière. Saint-Esprit, plus fort, Saint-Esprit, merci pour ta présence dans ce lieu. Je t'accueille. Jésus, tu as promis que tu nous donnerais le Saint-Esprit. Que tu nous baptiserais du Saint-Esprit. Donc maintenant, je te prie de nous inonder. Et de nous donner des dons spirituels selon ton bon vouloir, selon ta volonté. Prions maintenant pour que nous recevions des dons spirituels et surtout celui de prophétie. Nous recevons cela maintenant dans le nom de Jésus pour l'édification du corps de Christ. Et pour l'évangélisation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et toute l'église déclare. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur dans ce lieu? Amen. Que Dieu vous bénisse.